le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Le centre culturel d'Anderlecht commémore les 30 ans du génocide du Rwanda à travers une exposition, on l'a vu en avant-première. Mais d'abord, on a réuni un représentant des agriculteurs et un du secteur de la grande distribution pour voir si les uns comprennent les problèmes des autres. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Rémunération trop faible, charges administratives trop lourdes, le monde agricole manifeste ces derniers jours, les agriculteurs expriment leur ras-le-bol. Ce mercredi, ils ont notamment bloqué des centres de distribution, pénalisant ainsi les supermarchés. Est-ce possible de faire discuter les agriculteurs et les acteurs de la grande distribution? Soulèvent-ils les mêmes solutions quand on leur présente les mêmes problèmes? On a fait le test et on a réuni Guillaume Van Binst, secrétaire général de la Fédération des jeunes agriculteurs, et Dominique Michel, le CEO de Comeos, la Fédération du commerce et des services. Bonjour Dominique Michel.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Van Binst.
Bonjour.
Dominique Michel, CEO de Comeos. Guillaume Van Binst, secrétaire général de la Fédération des jeunes agriculteurs. Monsieur Michel, d'abord, est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs, notamment les actions de blocage auxquelles on assiste ces derniers jours?
En tout cas, je comprends et je connais les problèmes des agriculteurs. Hein. Malheureusement, ces problèmes ne datent pas d'hier, ils datent d'il y a très longtemps. On ne parvient pas à les résoudre. Par contre, les blocages des entrepôts, nos magasins, je crains que là, ce soit pas vraiment utile, ça n'a pas contribué, je dirais, à l'amélioration de la discussion entre nous. Voilà, je crois qu'il faut savoir sur qui on doit travailler. Clairement, les pouvoirs publics ont un énorme rôle à jouer, l'industrie alimentaire aussi, et nous, commerce, nous avons aussi un petit rôle à jouer.
Monsieur Van Binst, pourquoi viser la grande distribution?
Parce que, donc, à l'instar de d'autres niveaux de pouvoir, la grande distribution détient une partie de la solution et détient des éléments pour permettre à l'agriculteur d'avoir une meilleure rémunération.
Le problème le plus souvent mis en avant, vous venez de le dire, c'est la rémunération, c'est les prix. Le problème, il est où? C'est le consommateur qui paye trop peu, c'est les intermédiaires qui rémunèrent trop peu, c'est la concurrence qui fait que mécaniquement le prix diminue?
Ah, c'est sans doute tout ça. Maintenant, on aimerait aussi, c'est peut-être une de notre revendication collatérale, c'est d'avoir un véritable observatoire des prix afin d'analyser les marges au sein de la chaîne agroalimentaire. Au niveau des agriculteurs, il y a les contrats de gestion notamment, tout est connu par culture, par tête de bétail. Par contre, par rapport aux autres maillons de la chaîne, c'est un peu plus opaque.
Monsieur Michel, vous comprenez cette réflexion de se dire, les agriculteurs, tout le monde sait combien ils gagnent. Les intermédiaires, notamment dans la grande distribution, c'est parfois un peu plus flou, un peu plus opaque.
Nous, on n'a aucun problème. Le commerce, c'est vraiment le secteur qui est le plus ouvert. Tout le monde peut comparer ses prix à longueur de journée. Vous n'êtes pas content avec un prix, vous êtes dans le magasin concurrent. Ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs. On pense par exemple au secteur de l'énergie. Bonne chance pour comprendre quelque chose à votre facture d'énergie. Donc, nous, on est toujours ouvert à ça. Il y a déjà eu des exercices qui ont eu lieu par le passé et qui ont chaque fois montré que les marges des commerçants sont très, très faibles et que donc il n'y a pas du tout de surprofit. Mais demain, si de nouvelles études sont faites, nous serons les premiers à y participer.
Mais si les marges des agriculteurs sont faibles, les marges des distributeurs, des commerçants sont faibles, par où l'argent?
Aujourd'hui, il y a une surproduction. Et lorsque vous avez une surproduction de certains produits, eh bien, d'office, les prix chutent. Beaucoup de nos produits agricoles sont des produits qui sont exportés. Vous savez que la moitié de la viande belge, en fait, elle est exportée. Donc, on est dépendant du prix international. Une grande partie du lait belge est exportée. Une autre partie est utilisée par l'industrie pour faire du yaourt, du fromage, etc. Et donc, finalement, le commerce n'a qu'une petite partie de ce qui est produit. Alors, clairement, un des grands défis, c'est de s'orienter vers des productions pour les agriculteurs qui sont plus rentables. Et ça ne se fait pas en deux jours, ça ne se fait même pas en deux ans. Et il faut un processus d'accompagnement, aussi d'accompagnement financier pour les agriculteurs.
Monsieur Van Binst, on produit trop chez nous et on a besoin de plus de régulation?
Ah, en tout cas, au niveau de la FGA, le terme régulation n'est certainement pas tabou, puisque ça fait des années que l'on insiste sur le fait que les orientations prises par l'Europe dans les années 90 et qui ont conduit à placer les agriculteurs sur un marché mondialisé caractérisé par une volatilité des prix étaient quelque chose de tout à fait néfaste pour le monde agricole. Et donc, en effet, un système de régulation, peut-être pas tel que celui qu'on a connu via les quotas, par exemple, mais un système de régulation flexible, dynamique, pourrait tout à fait avoir un effet bénéfique sur les prix et donc sur les revenus des agriculteurs.
Si on produit beaucoup, c'est aussi parce qu'on produit pour l'étranger, il faudrait réduire ce nombre d'exportations et se concentrer sur un propre marché national.
Nous, on ne plaide certainement pas pour un protectionnisme et pour le nombrilisme. Hein. On est tout à fait conscient que les exportations, elles ont un intérêt. On ne saura jamais produire des bananes ou du café, donc on ne va pas se faire fermer sur soi-même. Par contre, la condition sine qua non pour nous, c'est que tout le monde ait les mêmes règles du jeu, donc que chacun puisse respecter les mêmes normes que celles que nous, on respecte et qui sont très, très hautes. Et donc, quand tout le monde aura les mêmes normes et devra respecter les mêmes normes, eh bien, alors là, la concurrence sera beaucoup plus saine.
Dominique Michel, une production plus réfléchie et avec des normes respectées par tout le monde, c'est ça qui permettrait d'aboutir à une solution?
C'est une des pistes. Hein. Il est clair que si demain on importe des produits hors Europe qui ne correspondent pas aux mêmes standards environnementaux mais aussi sociaux, clairement les prix seront plus bas mais le résultat sera moins bon. Donc on est tout à fait sur la même ligne. Des produits doivent répondre exactement aux mêmes critères de qualité sociale et environnementale.
Pour la grande distribution, c'est un avantage de pouvoir proposer des produits qui viennent un peu partout, où on pourrait voir un intérêt à se dire, on vend que du belge.
Non, bien sûr, je crois que le consommateur, vous et moi, nous sommes des consommateurs. C'est les consommateurs en fait qui décident de ce qu'ils veulent. Et de temps en temps, le consommateur, il veut manger des kiwis, il veut aussi manger, du bœuf français, hein, du limousin, ou que sais-je. Donc voilà, on répond à ses besoins, on répond à ses demandes. Ceci dit, je crois qu'il y a un rôle aussi bien pour les agriculteurs que pour l'industrie et que pour nous, les commerçants, d'informer bien le consommateur pour lui montrer les différences aussi entre les différents produits.
Monsieur Van Bins, ça vous étiez d'accord aussi, il y a un intérêt à aller faire presque de l'éducation à l'agriculture envers le public parce qu'on se rend compte qu'en Belgique, on connaît assez peu ce qu'on produit sur nos propres terres.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, on constate une déconnexion totale entre la société en général et le monde agricole. On a coutume de dire que avant, tout le monde avait quelqu'un, dans chaque famille, il y avait un agriculteur et donc lors des repas de famille, on était amené à échanger et à connaître les réalités de chacun. Ce n'est plus le cas maintenant. On assiste également à des campagnes, à de l'agribashing, hein, avec des campagnes à charge sur le monde agricole, avec des propos fallacieux, voire mensonger. Et donc ça c'est clair qu'il y a tout un travail de meilleure connexion entre la société et les agriculteurs pour que les personnes ici se rendent compte de la plus-value que d'avoir, de maintenir une agriculture ici en Wallonie et en Belgique.
S'il y avait une piste que vous voudriez particulièrement mettre en avant qui d'après vous serait le plus efficace pour essayer de trouver un petit peu de solution à tous les problèmes des agriculteurs?
Ah, mais de toute façon le problème réside dans la politique agricole commune et donc ça c'est clair qu'on n'y échappera pas. Si demain on veut assurer un avenir aux jeunes agriculteurs, il faudra revoir fondamentalement la politique agricole commune.
Monsieur Michel, c'est au niveau européen que la décision, que les leviers doivent être actionnés?
Oui, absolument. La concurrence, ça se fait au niveau européen. Donc même si on décide de faire certaines choses en Belgique, mais qu'au niveau européen rien ne change, ça aura un effet en fait négatif sur les agriculteurs. Donc clairement, la priorité, c'est maintenant de voir ce qu'on peut faire. Et nous, au niveau européen, et j'ai une réunion là-dessus vendredi, on va défendre cette idée d'avoir un nouveau cadre au niveau européen, clairement.
En tout cas, c'est la preuve qu'au niveau belge, vous êtes tout à fait capable de vous parler, de vous entendre, de vous comprendre. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, je vous en prie.
Merci à vous.
Cela fait 30 ans que près d'un million de Tutsis ont perdu la vie lors du génocide au Rwanda en 1994. Pour commémorer la fin de ce drame, le centre culturel d'Anderlecht Escale du Nord organise une exposition Écho du Rwanda qui se tient jusqu'au 15 février. Avec l'art et l'histoire, cette exposition remonte le temps pour mieux comprendre les événements. Comment se crée ce devoir de mémoire? Pourquoi est-ce si important de continuer à parler de ce génocide? Pour le savoir, Lila Maître s'est rendue au vernissage de l'exposition.
Au centre culturel d'Anderlecht, le brouhaha des visiteurs se mêle au son d'une vidéo sur les Tutsis et les Hutus, deux ethnies du Rwanda. Il est 19h et la trentaine de personnes est venue assister au vernissage de l'exposition Écho du Rwanda, qui présente des peintures de l'artiste Munana Gatera et des panneaux qui racontent l'histoire du drame. La présidente de l'Escale du Nord, Isabelle Emery, nous en dit plus.
C'est une exposition qui prend place dans un cycle annuel lié au devoir, au travail de mémoire. Au départ, on a une matière artistique, hein, d'où une présentation d'une exposition d'un artiste rwandais. Mais il fallait compléter cela par des éléments historiques qui expliquent les prémices du génocide et toute la manière dont ça s'est passé et la suite avec les procès en Belgique. Parce que, in fine, ce qu'on veut, c'est finalement de faire prendre conscience et de trouver des points d'appui pour ne pas répéter l'histoire et les pans dramatiques de l'histoire.
Mais justement, quel est exactement ce pan dramatique de l'histoire de ce pays, anciennement sous tutelle belge? C'est quoi le génocide des Tutsis au Rwanda? Ernest Sagaga, président de l'association Ibuka, Mémoire et Justice, qui regroupe des rescapés du génocide, nous fait un bref rappel.
Ce qui s'est passé, c'est qu'au Rwanda, il y a eu un régime qui a érigé la discrimination, la haine contre les Tutsis, qui s'est répandue à travers une vingtaine d'années, à partir de 1959 jusqu'en 1994. Et donc, à la fin, ils ont décidé d'appliquer la solution finale. Ils ont décidé de tuer tous les Tutsis, croyant que ce serait la fin du problème qu'eux-mêmes avaient créé, en fait, qui n'existait pas, qui n'avait pas raison d'exister, parce que les Rwandais vivaient ensemble pendant des siècles et des siècles, sans jamais se soucier de qui est qui. Mais en 1994, ils sont parvenus à mobiliser le peuple et l'appareil de l'État pour mettre à exécution leur plan d'extermination des Tutsis. À travers une centaine de jours, ils ont éliminé plus d'un million de Tutsis rwandais.
Pour raconter la montée de la haine au Rwanda, l'association Territoire de la Mémoire a mis en place des panneaux historiques et informatifs dans l'exposition. Pour le président, Michael Bishops, ce travail est essentiel.
Alors, parler du Rwanda, c'est une nécessité, parce que effectivement, notre association a été créée il y a 30 ans. Elle a été créée par des rescapés de nos camps de concentration nazis, suite au retour de l'extrême droite dans les assemblées élues démocratiquement. Et il y a quelques années, on a décidé de prendre en main aussi cette thématique, parce qu'il y a clairement une nécessité de pouvoir aider nos amis rwandais dans cette démarche de travail de mémoire. Donc le devoir de mémoire, on est clairement dans quelque chose de l'ordre du souvenir. Depuis quelques années, on parle beaucoup du travail de mémoire. Le travail de mémoire, c'est quelque chose de plus dynamique. On se veut être le relais de ces paroles et on veut travailler sur la société, travailler pour construire la société de demain, pour construire la société d'aujourd'hui. Ici, donc, nous, on apporte une démarche historique et pédagogique et de mêler ça à la démarche artistique qui peut aller toucher les émotions. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant de mêler les deux.
Ce soir-là, la parole artistique passe aussi par la danse. Sur son fauteuil roulant, la cyclodanseuse Chantal Iris Mukeshimana vogue à travers la pièce du centre culturel. Elle danse d'abord seule, avec un éventail rouge tirant sur le jaune, puis en duo, avec le danseur et kinésithérapeute Jean-Luc Franken. Pour cette rescapée du génocide rwandais, la danse lui permet de garder son indécrochable sourire.
Quand je danse, j'en montre que malgré qu'on est en chaise roulante, on peut aussi danser. Et malgré qu'on peut avoir quelque chose de terrible qui peut arriver, on peut montrer qu'il y a de la joie au travers de la danse. Je ne fais que ça. Et surtout, je vole, en fait. Et je ne suis plus en chaise roulante dans ce cas-là. Je ne me sens plus en chaise roulante. C'est comme si tout est oublié par la danse. Je me sens vraiment épanouie pleinement. C'est assez lourd, en fait, mon passé, à savoir que j'ai perdu ma maman pendant le génocide.
Chantal Iris Mukeshimana a 11 ans quand les casques bleus l'emmènent en Belgique, alors qu'elle était hospitalisée pour une polio pendant le génocide. Le récit de sa vie, elle le raconte dans un livre, Relève-toi et danse, écrit par Louisa de Groot, et dont un extrait a été lu par Patricia Xizarzek, une professeure à la retraite qui recueille des témoignages des rescapés.
Arrivée, l'une d'elles s'était écriée en souriant. Oh là là, mais que tu es mignonne! Tu es vraiment le portrait craché de ton père. D'ailleurs, tu as la même démarche que lui. Quelle belle petite fille! Elle faisait cercle autour de moi avec des yeux admiratifs et des mots pleins de gentillesse dans la bouche. Puis une des femmes interrogea ses voisines. Ne serait-elle pas Tutsi ? Les autres hochèrent la tête et renchérirent. Oui, c'est vrai, elle est très belle. C'est bien possible qu'elle soit Tutsi.
Bon, c'était plus mettre l'histoire en écrit pour ne pas que ça reste trop dans ma tête, en fait. Je ne veux pas oublier que ça s'est passé et que donc il faut continuer. Et c'est important de faire connaître aux enfants, par exemple, que ça existait, même s'ils ne l'ont pas vécu, même s'ils ne l'ont pas vu, que ça existait et qu'il faut, en fait, ne pas reproduire ce qui s'est passé. Et donc, il faut qu'ils sachent que ça a été une terreur. Enfin, c'était terrible à ne plus reproduire.
De la Belgique au Rwanda, le travail de mémoire est nécessaire pour les rescapés du génocide. Cela passe par la reconnaissance, mais aussi par la justice, comme l'affirme Ernest Sagaga de l'association Ibuka.
Avec le crime comme le génocide, on ne sait jamais réparer comme il faut. Mais au moins, on peut établir une fois pour toutes la vérité de ce qui s'est passé. On peut reconnaître à la fois les victimes et ceux qui ont commis le crime. Donc à la fin du processus, on sait exactement à quoi s'en tenir de façon objective. Et donc c'est très important pour que cette vérité soit reconnue, parce que ça permet de faire le deuil en fait. On dit on a tout perdu, on ne va jamais avoir les nôtres qui ont été tués, mais au moins, le monde entier reconnaît ce qui a été fait à nous. Et ça, c'est la seule justice. La vérité, finalement, c'est la seule justice qu'on peut donner aux victimes et aux rescapés.
À l'escale du Nord, les visiteurs peuvent donc découvrir ou redécouvrir l'histoire du génocide rwandais par le travail historique, les témoignages et l'expression artistique. Jusqu'au 15 février, des activités de lecture, de conférences et des ateliers scolaires continueront de soutenir ce devoir de mémoire. Quelques outils pour ne pas oublier et éviter de retomber dans les affres de l'histoire.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.